Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Maniakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du jeudi 23 mai 2024, dont voici d'abord les principaux titres. Violent combat entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 signalé au Nord Kivu. Au Tchad, Mahamat Déby, l'ex-chef de la junte élu président, prête serment aujourd'hui. Au Mali, une coalition d'opposants appelle à manifester contre les fréquentes coupures d'électricité. Menace de manifestation en Guinée si la transition ne rend pas le pouvoir aux civils d'ici à la fin de l'année.
En ce mois de juin qui doit venir là, normalement, c'était les élections législatives qui devraient être organisées pour que nous espérons avoir des élections vers décembre.
Toujours en Guinée, le gouvernement ferme 4 radios et une télévision privée populaire. La Maison-Blanche rejette la reconnaissance unilatérale de la Palestine par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Il ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. Dans l'est de la RDC, des combats violents ont repris sur plusieurs fronts dans le Nord Kivu, opposant l'armée régulière soutenue par des miliciens Wazalendo aux rebelles du M23, Eddy Issango.
Appuyé par d'anciens miliciens appelés désormais Patriotes ou Wazalendo en Swahili, les forces armées de la RDC, FRDC, ont lancé tôt hier matin des offensives contre les positions du M23 RDF, Force des défenses rwandaises, annonce sur X le porte-parole de l'armée congolaise dans la province, le lieutenant-colonel Guillaume Njike. Des localités ont déjà été reprises, soutient-il. Des sources contactées par téléphone depuis Goma ont confirmé des combats à l'AFP dans les territoires de Massissi et Rutshuru, au nord-ouest et nord de la capitale provinciale, sans faire état des percées significatives à ces stades. Un représentant de la société civile à Borimana, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Goma, estime que si ça continue comme ça, avec cette pression, l'offensive de l'armée peut produire des effets. Un habitant des Minova, ville située en bordure du lac Kivu, dans le nord de la province voisine du sud Kivu, touchée depuis peu par les conflits, déclare que des bombes sont lancées depuis Minova en direction des collines d'Indumba et Kabassé, où des combats font rage. Le M23 a réussi presque à encercler entièrement Goma. Fin avril, ces rebelles se sont emparés de la cité minière des Rubaya, dans les Massissi, riche notamment en coltan, minerai stratégique pour l'industrie électronique, où des combats étaient également signalés mercredi.
Le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef d'une junte militaire depuis 3 ans au Tchad, prête serment ce jeudi en tant que président élu le 6 mai dans un scrutin contesté par l'opposition. Son élection jugée peu crédible par des ONG internationales avec 61% des suffrages met fin à une transition au début de laquelle il avait été proclamé le 20 avril 2021 à la tête de l'État par une junte militaire à la mort de son père Idriss Déby Itno. L'ex-opposant Succès Mastra a présenté sa démission hier mercredi à son poste de Premier ministre conformément à ce que prévoit la Constitution après l'élection d'un nouveau président. Au Mali, une coalition d'opposants a lancé hier mercredi un appel à manifester contre les coupures d'électricité récurrentes qui plombent l'économie du pays, tandis que le régime militaire a déjà réduit au silence plusieurs voix critiques. Claire Morin-Gibourg.
La coalition Synergie d'Action pour le Mali appelle à manifester le 7 juin pour protester contre les coupures d'électricité et la vie chère, mais elle n'a pas précisé les lieux des rassemblements. Notre pays est confronté à la pire crise énergétique de son histoire, ont déclaré ses représentants, pointant les répercussions graves sur les hôpitaux, les commerces ou les ateliers de métiers, ainsi que sur les ménages. Cette coalition est composée de 30 partis et mouvements d'opposition, dont des partisans de l'influent imam Mahmoud Diko. Elle est devenue l'une des rares voix de la contestation contre la junte qui a interdit en mars ses activités, invoquant des menaces de troubles à l'ordre public. Les expressions d'opposition sont devenues exceptionnelles sous la junte. La justice malienne a condamné lundi à 2 ans de prison un célèbre universitaire et militant politique, auteur d'un livre critiquant la communication de la junte au pouvoir. Début avril, elle avait interdit les activités des partis politiques.
Une vingtaine de personnes ont été tuées dans une attaque de bandits armés en début de semaine dans un village de la région de Tillabéri au Niger, régulièrement ciblé par les groupes djihadistes. Parmi les victimes figurent des femmes et des enfants, selon des informations diffusées sur les réseaux sociaux par des ressortissants de la zone. En Guinée, le gouvernement a ordonné la fermeture de 4 stations de radio et d'une chaîne de télévision privée populaire, intensifiant ainsi les restrictions sévères sur la liberté de la presse. Rosine Munezero.
Les autorités ont retiré les agréments d'exploitation des radios FIM FM, Radio Espace FM, Suite FM, Joma FM et de la télévision Joma TV, dit un arrêté du ministère de l'Information publié mercredi. Il invoque un non-respect du contenu des cahiers des charges sans plus de précision. 4 stations de radio privées font déjà l'objet d'un brouillage constant depuis novembre 2023. 3 chaînes de télévision privées sont quasiment inaccessibles et au moins 3 sites d'information ont été bloqués pendant plusieurs semaines sans explication en 2023, souligne l'ONG Reporters sans frontières sur son site internet. La répression des médias doit cesser, s'est insurgé sur X, l'ONG, rappelant que les autorités s'étaient engagées auprès d'elle à débloquer une situation déjà dramatique pour les médias. Outre cette fermeture des médias, les autorités ont également imposé fin 2023 et début 2024 des restrictions d'accès à Internet, évoquant un problème de sécurité nationale. Le pays est classé 78e sur 180 pays dans le classement 2024 de RSF pour la liberté de la presse.
Le procureur au procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée a requis mercredi la réclusion criminelle à perpétuité pour l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara et ses autres responsables militaires ou gouvernementaux de l'époque, coupables selon lui de crimes contre l'humanité. Le magistrat Agassimou Diallo a refusé toute circonstance atténuante aux accusés en invoquant leur absence de regret depuis l'ouverture en septembre 2022 de son procès. Le procureur a demandé au tribunal de déclarer Moussa Dadis Camara coupable des faits de crimes contre l'humanité par meurtre, assassinat, torture, séquestration, viol et responsabilité de supérieurs hiérarchiques. Il a réclamé que les faits soient également requalifiés contre les 11 accusés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Maison-Blanche s'oppose à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien après l'annonce de sa reconnaissance par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Alexandrine Relognon.
Le président Biden est un fervent partisan de la résolution à 2 États et l'a été tout au long de sa carrière, a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson. Le président américain, poursuit-elle, pense qu'un État palestinien devrait être réalisé par le biais de négociations directes entre les parties et non par une reconnaissance unilatérale. Ses commentaires ne mentionnent pas directement la décision de reconnaître officiellement l'État de Palestine prise par les 3 pays européens, tous proches alliés des États-Unis. Washington a opposé son veto à une récente proposition du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à reconnaître l'État de Palestine, estimant que cette reconnaissance ne pouvait résulter que de négociations prenant en compte les intérêts d'Israël en matière de sécurité. Israël ne restera pas silencieux sur cette question de reconnaissance, a réagi le ministre israélien des Affaires étrangères en annonçant la convocation des ambassadeurs d'Espagne, d'Irlande et de Norvège et le rappel pour consultation de ces ambassadeurs dans ces 3 pays.
Les tensions mondiales figurent en haut de l'agenda des grands argentiers du G7 réunis à partir de jeudi dans le nord de l'Italie. Les ministres des Finances et banquiers centraux dans des 7 pays les plus riches du monde se concerteront jusqu'à samedi à Stresa, sur les rives du lac Majeur, pour préparer le terrain en vue du sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu mi-juin dans les Pouilles, dans le sud. Le projet de financer l'aide cruciale à l'Ukraine par les intérêts générés par les 300 milliards d'euros d'avoir de la Banque centrale de Russie gérée par le G7 et l'Europe sera scruté à la loupe. Sur la table de négociation figure la proposition des États-Unis visant à accorder à l'Ukraine jusqu'à 50 milliards de dollars de prêts garantis par les futurs bénéfices engendrés par ces actifs. L'Union européenne a fait un premier pas en adoptant début mai un accord pour saisir les revenus provenant des avoirs de la Russie, gelés afin d'armer l'Ukraine, une manne qui représentera entre 2,5 milliards et 3 milliards d'euros par an. La Chine a lancé jeudi des manœuvres militaires d'ampleur autour de Taïwan, qu'elle présente comme une punition sévère envers son nouveau président et immédiatement qualifiée par Taipei de provocation et action irrationnelle. Cette semaine, Pékin a qualifié le discours d'investiture prononcé lundi par le nouveau président d'aveu de l'indépendance de Taïwan et l'a menacé de représailles. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par Nani Tetalani.
La justice nigériane a ajourné en juin une affaire de fraude fiscale contre Binance pour une éventuelle mise en accusation de la bourse de crypto-monnaie et de deux de ses cadres, car les autorités n'ont pas fait comparaître devant le tribunal Tigran Gambaryan, citoyen américain et l'un des responsables de Binance. Binance et ses cadres sont accusés d'évasion fiscale, défaut d'enregistrement auprès du service fiscal du Nigeria, ainsi que de blanchiment de plus de 35 millions de dollars. La compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi a acheté la participation de 10% de Galp dans la concession de la zone 4 du projet de gaz naturel d'une valeur de plusieurs milliards de dollars dans le bassin de Rovuma au Mozambique. La concession de la zone 4 comprend l'installation flottante de gaz naturel liquéfié opérationnel de Coral South ainsi que le projet de développement de Coral North et les installations terrestres de gaz naturel liquéfié de Rovuma qui devraient tous deux recevoir le feu vert en 2024-2025 selon Galp. Pour terminer, Microsoft s'associe à une société d'intelligence artificielle basée aux Émirats arabes unis pour investir 1 milliard de dollars dans un centre de données au Kenya. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de ses efforts pour développer les services informatiques dématérialisés en Afrique de l'Est, ont déclaré les deux entreprises mercredi.
Et nous retrouvons Yacouba Ouedraogo dans votre page des sports. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
L'Atalanta Bergame remporte la Ligue Europa grâce à Lookman Ademola.
Oui, le Nigérien a planté un triplé pour permettre à l'Atalanta Bergame de déjouer les pronostics pour s'offrir la Ligue Europa, dublé en surclassant 3-0 le Bayer Leverkusen, pourtant invaincu cette saison. Après une Coupe d'Italie décrochée en 1963, c'est le deuxième trophée de l'histoire du club italien. Le Bayer Leverkusen, quant à lui, irrésistible depuis le début de saison, sacré champion d'Allemagne, sans avoir perdu une seule rencontre, est privé avec ce premier revers de l'année d'un triplé historique. Les hommes de Xabi Alonso, invaincus jusqu'à hier en 51 matchs, toutes compétitions confondues, ne peuvent pas s'apitoyer sur leur sort. Dès samedi, ils disputeront la finale de la Coupe d'Allemagne face à Kaiserslautern, un club de deuxième division, pour clore sur une meilleure note une saison au record.
La fédération malienne soutient Mohamed Camara, accusé d'homophobie.
La fédération malienne de football a apporté son soutien au joueur de l'AS Monaco, accusé d'homophobie, dans un communiqué publié hier mercredi. La fédération malienne de football soutient Mohamed Camara dans l'exercice de sa liberté d'expression et son corollaire, celle de ne pas s'exprimer, dit-elle. Lors de la dernière journée du championnat de France, le milieu de terrain avait masqué le logo contre l'homophobie, flanqué sur son maillot et porté par tous les joueurs, entraîneurs et arbitres dans le cadre d'une campagne de lutte contre les discrimination pilotée par la Ligue de football professionnel. La ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a dénoncé un comportement inadmissible et demandé les sanctions contre le joueur et son club. Mohamed Camara a reçu le soutien de personnalités maliennes et de nombreux compatriotes sur les réseaux sociaux.
Enfin, Yacouba, le fonds américain Oaktree prend le contrôle de l'Inter Milan.
Le fonds américain Oaktree a annoncé avoir pris le contrôle de l'Inter Milan qui vient d'être sacré champion d'Italie de football parce que le propriétaire chinois Suning ne lui a pas remboursé une dette de 395 millions d'euros dans les temps. Samedi, le président de l'Inter, Steven Zhang, a reproché au fonds américain de compromettre la stabilité financière du club et avait assuré que Suning avait tout mis en œuvre pour trouver une solution à l'amiable.
La page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila-Kidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Le Front National pour la Défense de la Constitution en Guinée, un collectif de la société civile dissous par les autorités, a averti qu'il pourrait relancer les manifestations si les autorités de transition n'acceptent pas de transférer le pouvoir aux civils d'ici à la fin de l'année. Le collectif a affirmé son opposition à toute prolongation de la transition et se dit prêt à utiliser des moyens légaux tels que les manifestations publiques pour faire valoir ses revendications. Yacouba Ouédraogo a joué à Conakry, Abdoulaye Oumou Sow, porte-parole du FNDC.
Le chronogramme signé entre la CDAO et la junte au pouvoir était prévu que la transition finisse en décembre 2024. Et jusque-là, ce qui est convenu dans le chronogramme n'a pas encore été réalisé. Vous avez remarqué que le Premier ministre, à peine sorti il y a quelques jours, il annonçait que décembre ne serait pas tenable. Et il mettait même en doute même que le référendum constitutionnel ne puisse être organisé. Donc, tout porte à croire que la junte s'est obstinée, elle a refusé de respecter l'engagement qu'elle a prévu avec la CDAO et elle veut aller d'être pas vers un glissement de calendrier comme ce qui s'est passé au Mali, ce qui se passe au Burkina pour le moment.
Quels sont les signes qui vous permettent de faire de telles affirmations?
Le référendum constitutionnel devrait se tenir en décembre 2023. Ça n'a pas eu lieu. Et les élections législatives et communales et communautaires devraient se tenir en février 2024. Ça n'a pas eu lieu. Et jusqu'au moment où nous parlions, nous n'avons ni constitution, ni fichier électoral pour aller à une élection. Et si le chronogramme n'est pas mis en œuvre, comment nous pourrons aller vers une élection alors que en ce mois de juin qui doit venir, là, normalement, c'était les élections législatives qui devraient être organisées pour que nous espérons avoir des élections vers décembre 2024. Malheureusement, rien n'a été fait et aucun obstacle n'a été opposé à la junte pour ne pas que le chronogramme ne soit organisé. Avant, le prétexte était que nous organisons des manifestations. Vous avez vu qu'il y a plus de 50 de personnes qui ont été tuées. Aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans, il n'y a pas eu presque de manifestations. En tout cas, liées au retour à l'ordre constitutionnel, les manifestations qui ont eu lieu, c'est des manifestations sociales. Donc, tout porte à croire que la volonté de la junte a été toujours de ne pas respecter ses engagements pris le 5 septembre après le coup d'État.
Qu'est-ce que vous prévoyez pour amener justement le pouvoir de Conakry à organiser ces élections-là d'ici au plus tard la fin de 2024?
Nous sommes en train de créer une coalition encore plus large et cette fois-ci nous allons même vers les médias parce que vous savez que les médias sont muselés, les fréquences de certains médias sont brouillées, certains sites internet qui sont coupés et autres. Nous voulons vraiment réunir autour de l'essentiel, notamment les centrales syndicales, les partis politiques, mais aussi la société civile, pour qu'il y ait une coalition large, pour que nous discutions de la sortie de la transition. Nous tendons vers un rejet total de la junte, parce que si ça continue comme ça, nous n'allons plus reconnaître la junte, et nous allons exiger à ce qu'il y ait un gouvernement civil pour organiser les élections dans les 6 mois.
Abdoulaye Oumou Sow, porte-parole du FNDC.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche accueille le président kényan William Ruto ce jeudi soir avec un dîner d'État et la signature d'accords. C'est la première visite d'État d'un dirigeant africain depuis 2008, lorsque le président américain George W. Bush a accueilli le président ghanéen John Kufuor. Nairobi espère tirer parti des financements et de l'influence de Washington, notamment après avoir proposé l'envoi d'une force de maintien de la paix en Haïti. Reportage de notre correspondante à la Maison-Blanche, Anita Powell. Récit, Claire Morin-Gibourg.
Il y a 3 raisons pour lesquelles la Maison-Blanche a choisi d'inviter le président du Kenya après 16 ans sans aucune visite d'État d'un dirigeant africain. Il s'agit notamment des convictions démocratiques communes des deux gouvernements et de leur approche similaire en ce qui concerne l'exploitation du secteur privé. Mais la principale raison a déclaré à la VOA la nouvelle responsable de la politique africaine de l'administration Biden et la récente décision du Kenya de s'affirmer au niveau mondial en proposant d'envoyer 1000 agents de sécurité en Haïti. Frances Brown est la directrice principale des affaires africaines au Conseil national de sécurité.
Elle s'est entretenue avec VOA cette semaine pour sa première interview avec les médias depuis qu'elle a pris ses fonctions au début du mois.
Nous avons choisi le Kenya pour plusieurs raisons. La première est que le partenariat entre le Kenya et les États-Unis est passé d'un niveau régional à un niveau mondial. Nous avons été très satisfaits de la manière dont les Kenyans ont joué un rôle de premier plan au-delà de leur région.
Pour beaucoup d'analystes, une visite d'État à la Maison-Blanche n'est jamais anodine. Cameron Hudson est chercheur principal au sein du programme Afrique du Center for Strategic and International Studies.
C'est le plus grand honneur diplomatique que notre pays puisse accorder. C'est typiquement un indicateur d'une relation bilatérale étroite et très importante. Ainsi, élever le Kenya au niveau, disons, du Japon, qui a été le pays le plus récent à recevoir une visite d'État, je pense que c'est symbolique et important pour toutes les raisons que je viens de décrire, à savoir que le Kenya est à un niveau où nous lui accorderions les mêmes privilèges qu'à l'un de nos partenaires de sécurité les plus anciens et les plus fidèles.
Madame Brown a indiqué que l'administration entendait profiter de cette visite pour conclure des accords dans des domaines tels que la technologie, la gestion du climat, l'allègement de la dette et la santé. En ce qui concerne la mission de sécurité en Haïti, Washington a manifesté son approbation en promettant un soutien de 300 millions de dollars.
Nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Comme vous le savez peut-être, une planification est en cours depuis plusieurs mois. Des experts en maintien de l'ordre du monde entier ont travaillé à l'élaboration d'un concept d'opération. Le Kenya ne fait pas travailler seul.
Le président kényan William Ruto, lors de sa première étape à Atlanta, a déclaré qu'il donnerait la priorité à la nécessité d'une aide américaine pour restructurer les dettes des pays africains, dont un grand nombre envers la Chine, le plus grand créancier du monde. Mais les défenseurs des droits de l'homme à Nairobi ont déclaré à la VOA qu'ils espéraient que le leadership américain soulèverait également des préoccupations concernant les abus commis par la police kényane qui prend la tête de la mission en Haïti. Les craintes concernant la législation proposée qui, selon eux, menace les minorités sexuelles et le déclin de la liberté des médias. William Ruto et Joe Biden se rencontreront à Washington jeudi avant l'organisation d'un grand dîner d'État pour clôturer cette visite historique.
Selon les données du Centre pour les femmes américaines et la politique, les électrices constituent une majorité de l'électorat américain, surpassant les hommes de près de 7 millions. Nathalie Barge rapporte un compte rendu de Scott Stearns qui examine les stratégies électorales de Joe Biden et Donald Trump pour attirer la confiance des électrices en vue de l'élection présidentielle de novembre.
Parmi des questions concernant les lois sur l'avortement et les droits reproductifs, les Américaines se soucient de questions plus larges, notamment l'économie et la criminalité, entre autres sujets de campagne. Rebecca Jensen, électrice du Minnesota, estime que le président Joe Biden a pris de bonnes décisions.
Je pense que les aspects environnementaux, l'économie et les soins de santé sont très importants. Je suis infirmière. Et je vois donc encore fréquemment le COVID au travail. Les gens n'arrêtent pas de dire que nous sommes post-pandémique, mais ce n'est vraiment pas le cas. Nous sommes toujours dedans. Je pense qu'avoir quelqu'un qui croit en la science à la Maison Blanche est une bonne chose.
Quant à Julie Bembe, qui vote au Nevada, elle souhaite un second mandat pour Donald Trump.
Il était bon pour l'économie. Il n'y avait pas de guerre. Il y avait l'harmonie, la paix et du travail. Les prix de l'essence étaient normaux. Je veux dire que c'est un homme extraordinaire. Il aime son pays. C'est une bonne personne. Il a élevé une bonne famille. Et nous allons le retrouver.
Joe Biden cible les électrices à travers une initiative de la Maison Blanche concernant la recherche sur la santé des femmes.
Pensez à toutes les percées que nous avons réalisées en médecine dans tous les domaines, mais les femmes n'ont pas été au centre de nos préoccupations. La recherche a mis beaucoup trop de temps à vous atteindre.
Pour la fête des mères, la campagne Biden avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux attaquant l'ancienne politique de Trump de séparation des familles d'immigrés. Lors d'une réunion de femmes chrétiennes, Trump a déclaré qu'il apporterait la paix en Europe.
Avant même d'arriver au bureau ovale, et après avoir remporté la présidence, j'aurai réglé l'horrible guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Trump s'efforce aussi d'attirer les électrices avec des messages fermes sur la criminalité et l'immigration.
Je pense que je m'en sors très bien avec les femmes au foyer de banlieue, parce qu'elles veulent rester en sécurité. Mais leurs bijoux sont pillés, leurs sacs à main, leurs téléphones et leur argent sont volés. Si vous ne voulez pas que des étrangers illégaux, criminels, rentrent chez vous par la fenêtre, vous devez voter pour expulser Joe Biden, le malhonnête, à cause des dégâts qu'il peut causer.
Le Centre pour les femmes américaines et la politique indique que les femmes sont toujours plus nombreuses à voter que les hommes aux présidentielles depuis l'élection de Ronald Reagan en 1980. Pour le dernier scrutin de 2020, les données du Centre de recherche Pew indiquent que Joe Biden a remporté le vote des femmes de 11 points de pourcentage sur Donald Trump.
Le Mexique se prépare à organiser le 2 juin ses élections les plus importantes de son histoire, couvrant la présidentielle, les législatives, 9 gouvernorats sur 32, ainsi que des élections locales. Avec plus de 20 000 mandats en jeu, ces élections captent également l'attention des Américains, conscients de l'impact potentiel de la situation mexicaine sur leur pays en tant que voisin frontalier. Pour une analyse approfondie, Mohamedou Onfa a discuté avec Julien Delacour, journaliste français basé à Mexico.
Alors, à l'approche des élections, on voit surtout au Mexique que le pays est divisé, notamment entre deux blocs majeurs. Il y a celui qui représente la continuité du gouvernement actuel, du président López Obrador. Ce bloc-là, il est représenté par Claudia Sheinbaum, hein, c'est l'ancienne maire de Mexico. Elle est donnée très largement favorite encore dans les sondages et elle porte alors l'étendard de la majorité actuelle, hein, son parti, le Mouvement de Régénération Nationale. Ensuite, de l'autre côté, on a l'alliance d'opposition, l'alliance de droite, pour le dire rapidement, qui est menée par Xochitl Galvez. Elle accuse toujours d'une vingtaine de points de retard sur sa principale adversaire, mais alors si on voit autant d'engouement médiatique à l'international pour les élections mexicaines, c'est surtout parce qu'a priori le Mexique élira le 2 juin sa première présidente femme dans un pays, comme on le sait, très machiste.
Alors ces élections évidemment intéressent les États-Unis. Est-ce que vous pensez que la relation entre les deux pays pourrait être différente selon que l'un ou l'autre des principaux candidats soit élu et pourquoi?
Oui, tout à fait. Et on peut même dire que la relation États-Unis-Mexique, c'est un des points qui est au centre de ces élections. Avec l'administration actuelle, il y a tout un tas de dossiers assez conflictuels. Je pourrais en citer quelques-uns. Il y a notamment, vous avez peut-être entendu parler des armes à feu, où le gouvernement mexicain essaie depuis quelque temps d'attaquer les fabricants d'armes américains dans les tribunaux des États-Unis, en avançant que 70% des armes impliquées dans des violences viendraient des États-Unis. Sur le plan économique, on pourrait aussi citer les problèmes et les tensions liées autour du maïs transgénique, un maïs jaune en provenance des États-Unis a dit vouloir interdire petit à petit le glyphosate, hein, ce produit phytosanitaire. Dans cette ligne-là, alors que l'opposition, la candidate d'opposition et l'alliance de droite en général a un ADN plus libéral, surtout sur les questions économiques, ce qui a plutôt tendance à rassurer Washington. Dans sa campagne, Xochitl Galvez insiste beaucoup sur le secteur de l'énergie et elle veut aller contre toutes les nationalisations dans le secteur qu'a amorcé le gouvernement actuel.
L'un des sujets qui intéresse ici aux États-Unis, c'est l'immigration et la sécurisation des frontières entre les deux pays. Quelle est l'approche des principaux candidats par rapport à ce sujet?
Oui, c'est un sujet absolument brûlant, celui de l'immigration, et c'est peut-être là aussi qu'on voit le plus de collaboration entre Mexico et Washington, puisque les deux ont intérêt à limiter, à contenir l'immigration clandestine.
Julien Delacour, journaliste français basé à Mexico. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Mandirakidza à son micro. Firmin Kouyaweda a assuré la production et la réalisation. À la console, Nachwan Kale. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.